Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Pour cette nouvelle émission Au fil des pages, nous nous sommes rendus au domicile du professeur Tubiana, qui a fait paraître en novembre 2010 La science au cœur de nos vies aux éditions Odile Jacob, une sorte de legs fait à ses petits-enfants et enfants des générations futures sur l'intérêt de la science et de la recherche. Maurice Tubiana est médecin, biologiste et physicien, pionnier depuis 1950 de la lutte contre le cancer, ancien président de l'Académie nationale de médecine, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Académie des technologies. À 91 ans, le professeur Tubiana n'a rien perdu de sa verve. Dans les premières pages de votre livre, vous racontez une anecdote, celle de votre arrière-petit-fils qui vous demande innocemment « qu'est-ce que la science ?». Je ne vais pas faire plus compliqué que lui, je vous retourne la question, professeur Tubiana, qu'est-ce que la science pour vous ?
J'ai pensé que pour expliquer ce qu'est la science, il fallait aller au tout début de la science, au moment où elle était simple et on pouvait l'expliquer. Alors l'exemple que je prends est celui qui a prouvé que la Terre n'était pas plate mais ronde. Vous savez, les Grecs étaient des navigateurs. Donc très tôt, ils se sont aperçus que quand un navire s'éloignait de la côte, on voyait d'abord disparaître la coque du bateau, puis les voiles, puis le sommet des mâts. Mais si à ce moment-là, au moment où disparaît le sommet des mâts, très vite, on monte sur la falaise voisine, on voit réapparaître dans l'ordre le sommet des mâts, les voiles et la coque du bateau. Ceci n'est pas compatible avec l'idée que la Terre est plate. Et très vite, les philosophes grecs ont conclu que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle présentait une curvature, qu'elle était ronde. Et les grands philosophes grecs, Platon, Aristote, en ont tiré deux conclusions fondamentales. La première, c'est que les sens sont trompeurs. On a l'impression que la Terre est plate, elle n'est pas plate. Deuxièmement, que pour essayer de comprendre, il ne faut pas recourir aux sensations, il faut s'en méfier, il faut raisonner. Et ils ont introduit deux conclusions. Premièrement, raisonner soit par la logique, le logos, comme on disait à l'époque, par le logos, donc déduire grâce à la raison les caractéristiques de la science, soit utiliser l'approche mathématique, c'est la thèse de Platon qu'il a développée. Alors cette méthode s'est imposée, et notamment Aristote, comme vous le savez, pendant plus de 20 siècles, a été l'oracle, c'est à lui qu'on demandait toutes les connaissances, c'est de lui qu'on tirait tout ce qu'on savait. Mais ça aboutit à un cul-de-sac, à une absence de progrès. Et au bout d'une vingtaine de siècles, on a commencé à se dire que ce n'est pas la bonne méthode, on ne progresse pas. Et au fond, comme ce que nous étudions, c'est les faits, il faut partir des faits et aller des faits vers leur compréhension au lieu d'essayer de demander au raisonnement de descendre du raisonnement jusqu'aux faits. Donc une approche beaucoup plus modeste, plus humble, où on part des faits à la place de ce raisonnement souverain qui sera capable de tout découvrir. Et à partir de ce moment-là, ça a été un miracle. On a commencé à comprendre ce qui se passait. Je ne passerai pas sur les travaux de Copernic, mais disons qu'à partir du XVIe, avec cette méthode, on étudie les faits et on cherche les meilleures méthodes d'expliquer ces faits. On a découvert que le monde était compréhensible. À partir de ce moment-là, le problème qui se posait, c'était de réconcilier l'homme avec la science. Car il faut bien voir que dès les débuts, on s'est méfié de la science. On s'est méfié de la science pour deux raisons. La première, c'est que la science s'oppose aux dogmes, aux croyances. Et dès l'Antiquité, on a voué une haine à la science. Dans tous les milieux où il y avait des croyances et des dogmes, en se disant « ils vont nous les remettre en question ». Ça, c'est la première raison. Puis la seconde raison qu'a bien développée Freud dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation » paru en 1929, c'est que la science est devenue synonyme de contrainte dans la société moderne, du réveil matin au travail à la chaîne, la science impose une certaine façon de vivre. Alors, sous l'effet de ces deux facteurs, lutte, peur de la science en tant qu'agent d'innovation et de remise en question, et rejet de la science en tant que synonyme de contrainte, il y a toujours eu des réticences devant la science. Et à certaines époques, ces réticences ont été particulièrement fortes. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le procès de Galilée. Le procès de Galilée, on reproche à Galilée, qui, à la suite de Copernic, défend l'idée que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. On accuse Galilée d'être contre la Bible et on le condamne. Ce qui est plus grave, part de la papauté et du Saint-Office, une vague de remise en question de la science, et le clergé catholique fait des efforts autour de la papauté et du Saint-Office pour arrêter les progrès de la science. Alors, dans certains pays catholiques, notamment l'Italie, qui était le pays où la science était le plus développée, mais aussi l'Espagne et le Portugal avec les expéditions maritimes, et l'Autriche, où Kepler venait de fonder l'astronomie physique, la science a été bloquée pratiquement pendant 2 ou 3 siècles. Le clergé a bloqué les choses. Alors, en France, nous avons été sauvés par Colbert. Colbert voulait développer une marine. Pour développer une marine, il avait besoin d'astronomes et de mathématiciens. Et il a créé l'Académie des sciences pour faire la défense et l'illustration de la science. Et grâce à Colbert, la science a pu se développer. Depuis cette époque, depuis donc le début du XVIIe, jamais les réticences contre la science n'ont été aussi fortes qu'aujourd'hui. Elles sont très fortes pour 2 séries de raisons. D'abord parce qu'un certain nombre de gens sont hostiles à la science délibérément. Il y a notamment les précautionnistes qui pensent que la science peut apporter des agents dangereux susceptibles de remettre en question l'espèce humaine. Et puis il y a les écologistes, eux, ont une croyance que la nature répond à tous les problèmes, que la nature est parfaite, et ils ont peur de la remise en question des travaux scientifiques.
Et quand vous parlez des précautionnistes, vous parlez donc du principe de précaution qu'on établit aujourd'hui ?
Non. Je parle d'abord de Hans Jonas. Hans Jonas a été un grand philosophe allemand dont la crainte était que la science trouve des agents qui puissent être à l'origine d'apocalypse. D'où la précaution et d'où d'ailleurs, mais secondairement, le principe de précaution. J'en profite pour dire que les scientifiques ne sont pas du tout contre le principe de précaution. Ils seraient même plutôt pour le principe de précaution, mais à condition que celui-ci soit encadré par des connaissances scientifiques solides et ne se fasse pas simplement en se fondant sur des rumeurs. Quand, par exemple, on a arrêté la vaccination contre l'hépatite B en disant « il y a un risque de créer des scléroses en plaques », on a pris un risque énorme parce que on a arrêté cette vaccination, ceci va causer environ 500 morts par an qui auraient pu être évitées, parce qu'on avait peur de faire des scléroses en plaques. Et en réalité, les travaux ont montré qu'il n'y avait aucun rapport entre la sclérose en plaques. Donc vous voyez que la précaution, quand elle est excessive, est peut-être extrêmement dangereuse. J'en prendrai un autre exemple. L'épidémie de chikungunya dans l'île de la Réunion. Au cours de cette épidémie, c'était les moustiques qui étaient le vecteur de la maladie. Et tout de suite, on a dit qu'il faut utiliser les insecticides pour tuer les moustiques. Et les gens, les responsables locaux, ont dit non, c'est trop dangereux, il ne faut pas le faire. Et on a laissé l'épidémie se développer. Quand finalement il est devenu évident que l'épidémie ne faisait qu'enfler et qu'on a utilisé les insecticides, en 2 semaines, ça a été terminé. Donc plus de 200 personnes sont mortes parce qu'on a tardé à utiliser les insecticides.
Est-ce que science et écologie peuvent s'entendre ?
D'abord, être bien clair. L'environnement est quelque chose d'extrêmement important. L'environnement, il faut l'étudier et l'étudier avec objectivité et esprit critique. Il ne faut pas en faire un dogme, il ne faut pas en faire une religion. Le drame des écologistes, c'est qu'ils font de l'écologie une religion. Alors je crois qu'il faut qu'on développe dans les universités françaises les sciences de l'environnement et l'écologie, mais qu'on fasse bien une distinction entre deux choses qui sont totalement différentes. L'étude de l'environnement, qui doit être faite de façon scientifique et objective dans les universités, d'une part, et d'autre part, les croyances des écologistes qu'il faut analyser et voir si elles correspondent ou non à des faits, et ça on ne le saura que par des expérimentations. Mais pour l'instant, en jetant le discrédit sur les biotechnologies, la seule chose qu'on est arrivé à faire, c'est à délocaliser les laboratoires de biotechnologie qui sont allés s'installer dans d'autres pays où l'atmosphère est meilleure, l'état d'esprit est meilleur vis-à-vis de la science. On a perdu donc des laboratoires précieux à cause de cette peur que la France n'est plus un pays logique, rationnel, et que les rumeurs portées par les médias ont plus d'influence que les rapports scientifiques. Ce qu'il faut, c'est réhabiliter l'approche scientifique. Et ça, malheureusement, nous en sommes loin. Et nous en sommes loin pour 2 types de raisons bien différentes. D'une part, parce que les médias ont intérêt à cultiver les peurs, parce que les peurs augmentent le tirage et augmentent les audiences. On l'a bien vu pour la maladie de la vache folle, où on en a fait des drames épouvantables, alors qu'en réalité, les inconvénients ont été minimes, les conséquences ont été minimes. Mais ça reportait tellement aux médias en provoquant une augmentation du tirage que tout le monde avait intérêt à dire « c'est dangereux, c'est terrible ». Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est très facile de répandre des peurs. Il suffit quelques articles. On l'a vu pour les OGM. On a arrêté complètement l'usage des OGM dans toute l'Europe, alors que les OGM se sont développés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, l'Europe est restée sur le côté, sans aucune raison valable, puisque depuis 18 ans qu'on utilise des OGM dans le monde, on n'a jamais constaté quoi que ce soit qui puisse montrer que les OGM sont dangereux. Mais on est arrivé à créer cette peur des OGM sur le simple mot de manipulation génétique. Ce mot a été magique, et il a été exploité, et il fait peur.
Alors, j'ai un autre fait à vous faire analyser qui est le vaccin contre la grippe A. Là, pour le coup, on a agi, fait en sorte de mettre un vaccin sur pied, mais pour autant, cette fois-ci, le public n'a pas suivi derrière.
Fondamentalement, c'est un petit peu la même chose. Dans tous ces cas, on se précipite, on agit vite, on croit qu'en agissant vite, on va agir bien. En réalité, avant d'agir, il faut réfléchir, il faut s'entourer d'experts scientifiques compétents. Il faut être capable de moduler son action en fonction des réactions. Et si on avait attendu pour la grippe l'expérience de l'été, on aurait vu pendant l'été, en Amérique australe, il n'y avait pas eu d'épidémie. Donc cette épidémie était beaucoup moins grave qu'on ne le pensait et que ce n'était pas la peine de mobiliser et d'arrêter presque la France pendant des mois. Et c'est très grave parce que ça nuit à la crédibilité de la science. On n'y croit plus parce qu'on prend des mesures au nom du principe de précaution, théoriquement au nom de la science, et qui ne sont pas des mesures utiles et efficaces.
Si on s'arrête quelques instants dans le domaine de la médecine, L'hormone de croissance ou le distilbène, par exemple, font qu'il y a eu aussi un discrédit qui s'est projeté dans le domaine médical.
Je crois qu'il faut avancer rationnellement. Tout médicament est par définition toxique puisqu'il agit sur l'organisme pour le modifier. Donc il ne faut pas penser qu'on peut trouver des médicaments inoffensifs. C'est une question de rapport coût-bénéfice. Quel est l'avantage du médicament? Quel est son coût? Alors dans cette évaluation du coût-bénéfice, on a fait des erreurs à certains moments. Vous citez le distilbène qui a été une énorme erreur. On a cru qu'à ce distilbène, on allait éviter des fausses couches et au contraire, on a provoqué des maladies très graves. Donc, qu'il y ait eu des erreurs, c'est évident. Mais si on regarde de façon générale, le bénéfice est colossal. Les médicaments ont causé des drames, mais ils ont causé encore beaucoup plus de guérisons. Si on regarde l'évolution de la durée de vie au cours du XXe siècle, en 1900, la durée de vie était de 45 ans, hommes et femmes réunis. Aujourd'hui, elle est de 78 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Donc quand on dit la vie moderne, la pollution, les médicaments ont gâché la vie, vous voyez que c'est exactement le contraire. Bien sûr, il y a de temps en temps des erreurs. Bien sûr, il faut développer les méthodes pour éviter ces erreurs et être circonspect. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter aux gémonies tous les médicaments, bien au contraire.
Mais est-ce que vous pensez que le public est un peu ingrat vis-à-vis de la science? C'est-à-dire que quand elle apporte les bénéfices, on l'accepte, mais au moment où il peut y avoir une répercussion négative, à ce moment-là, c'est l'élément qui est banni.
Ça n'est pas qu'il est ingrat, c'est qu'on ne lui apprend pas les bénéfices de la science. On lui dit la science, elle développe des contraintes. La science, elle rend l'homme esclave de la machine. Tout ça est un peu vrai. Mais on oublie de lui dire en revanche, la durée de vie s'est allongée, la sénescence est beaucoup plus tardive. En 1830, une femme avait une existence effective d'environ 30 ans. Rappelez-vous la femme de 30 ans dans Honoré de Balzac, ou la première scène des Caprices de Marianne, où Octave, l'amoureux transi, dit à Marianne, « Marianne, vous avez 18 ans ». Il vous reste 5 à 6 ans pour être aimé, 6 à 8 ans pour aimer vous-même et le reste pour prier Dieu. Donc à 30 ans, la seule ressource d'une femme était de prier Dieu. Ben, ce n'est plus la même chose. À 30 ans, une femme commence sa vie. Eh bien, ça, on le doit à la science. Quand on regarde sur le plan pratique quels sont les facteurs qui permettent aux gens de vivre plus longtemps, de vieillir beaucoup plus lentement, on s'aperçoit que c'est la science qui a joué ce rôle.
Vous avez parlé du dogme qui s'opposait à la raison. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'émotion qui s'oppose à la raison?
Il y a trois choses qui s'opposent à la raison. Le premier, c'est l'intérêt commercial. C'est l'intérêt commercial des médias, c'est de se vendre. Pour se vendre, il faut faire peur. Donc, les médias ont avantage à accentuer sur les peurs plutôt qu'à accentuer sur ce qui est rassuré. La seconde chose, c'est qu'il y a des idéologies. Je n'insisterai pas. Il y a des idéologies qui sont hostiles à la science, j'en ai déjà parlé, et qui luttent contre la science. Et la troisième chose qu'on oublie souvent, c'est les intérêts commerciaux. Si on regarde les OGM, il est tout de même curieux qu'on ait fait des luttes contre les OGM pour les diaboliser uniquement en Europe. Et qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, on utilise très largement les OGM. Et on peut se demander s'il n'y a pas des gens qui ont des intérêts commerciaux ou idéologiques à bloquer les OGM pour se débarrasser d'un concurrent dans ce gigantesque marché des semences agricoles qui va prendre une importance colossale puisque le nombre d'habitants sur Terre grandit plus vite que la production agricole. Donc la production agricole va devenir le phénomène crucial du XXIe siècle, et on a mis l'Europe de côté en lui faisant peur avec les OGM. Donc le marché des semences agricoles a échappé totalement à l'Europe et ça va être une source de déclin. et de façon plus générale, le discrédit de la science, le refus de l'innovation scientifique à cause de la perte de la science, est un élément crucial dans le risque de déclin de l'Europe. La seule façon pour l'Europe de se défendre dans un monde où les pays émergents ont des salaires 10 fois inférieurs à nos scientifiques et à nos techniciens d'Europe, c'est d'être plus créatif que les autres pays, donc de développer la science, de développer la recherche scientifique, et non pas de faire peur avec la science, de faire fuir les scientifiques dans d'autres pays, parce que la science est mal vue en France. Donc lutter pour la science, c'est lutter contre le déclin de l'Europe. Eh bien ça, malheureusement, beaucoup de gens l'oublient, même au niveau du gouvernement.
Alors, je voudrais poursuivre par une phrase que j'ai retenue de votre livre. Vous dites « J'ai conçu une méfiance envers les mouvements d'opinion, car celle-ci peut être facilement manipulée. » Est-ce que vous pourriez développer votre propos ?
Écoutez, c'est très facile de faire peur. Je vais en prendre un exemple. Le paludisme est une maladie horrible. En 1945, il y avait des régions entières d'Europe qui étaient touchées par le paludisme et dans lesquelles il était extrêmement difficile de vivre. Pour prendre l'exemple de la France, la côte orientale de la Corse, le Languedoc, était pratiquement condamnée à cause de l'abondance des moustiques et du risque de paludisme. Ce sont devenus des lieux de villégiature très recherchés. Pourquoi ? Parce qu'en 1945 à 1955, grâce au DTT, on a fait des épandages de DTT, ce qui a tué les moustiques. Et pour prendre l'exemple de l'Italie, il y avait 700 000 cas de paludisme chaque année. En 5 ans, ça a été réduit à 0. Je vous ai parlé de la côte orientale de la Corse où du Languedoc sont devenus des lieux de villégiature. Alors, est-ce qu'on aurait pu se dire, c'est merveilleux, grâce au DTT, on se débarrassait du paludisme et on a rendu des régions inhabitables, des régions fertiles. Eh bien, quand en 1965, une vingtaine d'années plus tard, on a commencé la campagne sur les risques du DTT, on a oublié ça. On a oublié qu'on s'était débarrassé du paludisme, qu'il n'en était résulté aucune séquelle grave, et que tout ça s'était passé très bien. Et à cause de ces peurs dont la réalité n'était pas démontrée du DTT, on a arrêté l'utilisation du DTT, non plus en Europe, heureusement en Europe, on avait déjà agi et il n'y avait plus de paludisme, mais dans des pays comme le Sri Lanka, l'île de Ceylan, il y avait 4 millions de cas de paludisme par an quand on a commencé à utiliser le DTT. C'était tombé pratiquement à zéro en 3 ans. À ce moment-là, on a répandu les craintes sur le DTT. Le DTT a été interdit. Et le paludisme est monté à 3 millions de cas par an. Et personne n'a dit, mais quand en 45-50, on a utilisé le DTT, il n'en est résulté aucune catastrophe, aucun effet nocif notable, parce que ceci montre que les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte, et il y a surtout, et c'est ça le phénomène fondamental, personne ne s'occupe d'informer correctement les Français. Les gens peuvent raconter n'importe quoi dans les journaux, dans la télévision, dans les radios. Personne ne les contredit. Il n'y a pas en France, et c'est une défaillance fondamentale, de gens qui s'occupent de rétablir la vérité en disant ces rumeurs qu'on fait courir sur tel ou tel agent ou tel agent ne reposent sur rien. En 2002, Hubert Curien était président de l'Académie des sciences. J'étais président de l'Académie de médecine. On s'est dit, comme on était très amis, on va faire quelque chose. On est allé voir Mme Meignoret, qui était ministre de la Recherche. Elle était d'accord pour faire quelque chose. Mais il fallait trouver de l'argent. Et ça a pris du temps. Et puis il y a eu un changement de ministère et le nouveau ministre ne s'est plus intéressé à ça. Mais le phénomène fondamental, ce n'est pas ça. Le phénomène fondamental, c'est que les gens ont voulu avoir les voix des écologistes. Et pour avoir les voix des écologistes, ils ont laissé les écologistes dire n'importe quoi sans les contredire. Et c'est ça la défaillance fondamentale du système français. On n'ose pas dire la vérité, on n'ose pas prendre le risque de dire ce qui est, de peur de perdre des voix aux élections.
Alors ça va me permettre de terminer, on va terminer sur cette note-là, qui est une phrase de Renaud Denoy de Saint-Mar, que vous citez dans votre ouvrage. Alors je rappelle pour nos auditeurs que Renaud Denoy de Saint-Mar est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et membre du Conseil constitutionnel. Et il parle du courage. Alors je crois que c'est là où vous vouliez en venir. Il dit « Le déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche des dirigeants et de la couche actuelle dominante. Et la démarche scientifique demande du courage parce que justement la démarche scientifique refuse le conformisme et les idées reçues. »
Je crois que c'est ça la chose fondamentale. Nous vivons dans un système où les gouvernements ou les partis sont à la recherche des voix. Ils ne pensent plus à dire la vérité, ils font la pêche aux voix électorales. Il faut beaucoup de courage pour dire la vérité. Malheureusement, nos hommes politiques vivent dans le jour, dans l'instant, dans la perspective d'une élection qui va avoir lieu dans quelques mois ou dans quelques années, et ils perdent de vue l'avenir du pays. Je crois qu'on se trouve d'une certaine façon dans la situation où on était dans les années 30 vis-à-vis de la montée des périls extérieurs et d'Hitler. On avait tellement peur d'Hitler qu'on n'osait pas en parler. Alors on parlait de tout, sauf d'Hitler. On a vu le résultat. Nous sommes dans la même situation. L'Europe ne peut vivre que grâce à un surcroît de science, à un surcroît de confiance dans la science, un surcroît d'innovation, une capacité d'innovation. Alors, il y a au niveau de Bruxelles un organisme qui étudie la capacité d'innovation des pays. Sur les 27 pays, la France était le 10e, alors que la Suède était le 1er et l'Allemagne le 2nd. Aujourd'hui, la France, elle est devenue le 11e, parce que la capacité d'innovation des Français est diminuée. Et cette diminution de la capacité d'innovation des Français, elle n'est pas due à un manque d'argent, elle n'est pas due à un manque de bonne volonté, elle n'est pas due à un manque d'hommes, elle est due au fait qu'on n'a plus confiance en la science et qu'on laisse partir les scientifiques au lieu de leur demander d'utiliser leur capacité d'innovation pour améliorer les choses. Si on regarde l'aspect économique de la France, les trois principales ressources françaises, c'est l'avion à réaction, les réacteurs atomiques et les TGV. Les trois résultent d'efforts de la délégation générale à la recherche scientifique et technique dans les années 65. Et nous vivons 50 ans après sur ces efforts qui ont été faits dans les années 65. Mais on n'a plus le courage d'innover, le courage de lancer de nouvelles actions. Nous ne nous sortirons de ces difficultés qu'en changeant l'état d'esprit des Français. Et pour changer l'état d'esprit des Français, il faut trois choses. Une éducation convenable, ce qui n'est pas le cas. Une aide donnée à la science par un changement d'état d'esprit et redonner confiance à la science en montrant par l'éducation et par l'information tout ce qu'elle a apporté dans le public. Et puis un peu de courage.
Je vous remercie, professeur Tubiana. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La science au cœur de nos vies », paru chez Odile Jacob en novembre 2010.